tout à l'heure, Laurence parlait de ces petits bouts de papier qui sont dans nos Bibles. Et je voulais vous parler d'un de ces petits bouts de papier qui était dans ma Bible jusqu'à il y a très récemment. Et j'en avais un peu honte de ce petit bout de papier. C'était la publicité d'un certain Sérigne Eliman Nyang. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu cette publicité. Voilà. Je vais vous expliquer. Donc, ce monsieur-là, il vantait ses dons de grand marabout, descendant de grand maître islamique. C'est ce qu'il avait écrit sur le tout petit papillon que j'avais reçu. Et j'ai copié l'annonce pour vous. Par ses résultats, il a acquis une réputation mondiale. Pas de déception. Résultat 100% garanti. Il possède des dons surnaturels, maîtrise une force spirituelle exceptionnelle. Il résout tous les problèmes une fois pour toutes, même les cas les plus désespérés. Spécialiste du retour de l'être aimé, envoûtement, désenvoûtement, protection contre les maléfices, protection contre les mauvais sorts, chance en amour, chance partout. Résultat efficace. Travail rapide, ah là j'ai pas compris, et double efficacité. Reçoit sur rendez-vous de 7 à 19h30 tous les jours. Il y avait un numéro et c'était en effet un numéro sénégalais. Alors à la lecture de cette publicité, mon premier réflexe, je vous avoue que ça a été de sourire. Je me suis dit que si la renommée de cet homme était effectivement mondiale comme il l'annonçait, il n'avait pas besoin de faire de la publicité comme il était en train de le faire. Et puis vu le nombre de fautes d'orthographe qu'il y avait dans l'annonce aussi, là je vous ai passé, mais ça sentait fort le charlatan. Et puis sa prétention à résoudre tous les problèmes aussi, ça m'a mis la puce à l'oreille comme on dit. Et puis je suis allé me balader sur son site Facebook et sur son site internet, sur sa page Facebook pardon. Alors j'ai eu du mal à savoir s'il avait de la clientèle. J'arrivais pas à savoir si son travail était florissant. Mais il y a quand même deux choses qui m'ont interpellé. La première, c'est ces autres paroles, cet autre petit mot qu'il a mis sur son site internet. Beaucoup de gens continuent de ne pas croire en la magie noire et le pouvoir du mystique. Mais tout ceci existe bel et bien en Afrique et est très efficace. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai que nous, ici, en France, en Europe, dans notre société occidentale, marquée par le monde scientifique, par le rationalisme, on a tendance à nier l'existence de l'occultisme. Pourtant, Jésus lui-même, il a lutté contre de telles forces, il a pratiqué des exorcismes, il a délivré des hommes qui étaient possédés par des démons. Et donc, je me suis dit, on ne devrait pas éjecter de notre système de pensée l'occultisme, on ne devrait pas éjecter de notre système de pensée le pouvoir du diable. Parce qu'il est bien réel, même si ces manifestations ne sont pas exactement les mêmes que celles du temps de Jésus. Donc j'avais quand même été interpellé par cette annonce de M. Nyang. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, je vous reprojette un peu son annonce, c'était le champ d'action de son ministère. Vous avez vu ce que j'ai mis en rouge, il solutionne mais tous nos problèmes, 100% garanti, ce qu'il affirme, il y va fort, il prend des risques. Il nous vend de la chance partout, travail, santé, amour, mais ça fait rêver ça, non? Parce que si on y réfléchit bien, on a tous quelque part au fond de nous un problème qui doit être résolu, alors pourquoi pas frapper à la porte de M. Nyang. Quand on a tout essayé pour notre santé, la médecine traditionnelle et non traditionnelle, et qu'on ne sait plus quoi faire, ça explique peut-être pourquoi certains appellent ce type de numéro. Alors, si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous encourager à vous tourner vers M. Nyang. D'ailleurs, je ne vous donne pas son numéro de téléphone. Je ne voulais pas copier. Mais je voudrais plutôt vous encourager à vous tourner vers quelqu'un d'autre que lui, dont l'autorité et la légitimité n'ont aucune limite. Jésus-Christ, vous l'avez compris. On continue notre série dans l'évangile de Marc. La semaine dernière, on a vu le début du ministère public de Jésus. On a vu ses premiers pas. il encourage les hommes et les femmes à se repentir et à se tourner vers Dieu pour être sauvés. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir sa réputation grandir progressivement. Jésus, il va continuer à prêcher, mais il va faire plus que ça. Il va accompagner sa prédication de gestes. Il va guérir et il va exorciser. Et c'est ça qu'on va voir ensemble tout à l'heure, tout de suite, pardon. Et c'est Marie qui va lire pour nous. Merci Marie. Dans toute la suite, toute la fin du chapitre 1 de l'Évangile de Marc que vous avez sur le dos de vos feuilles.
Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent !» Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. » Car c'est pour cela que je suis sorti. Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux lui dit en suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout.
Merci Marie. L'évangile de Marc, elle a un seul but, c'est de répondre à la question « Qui est Jésus ?» Et vous voyez qu'on est servi déjà ici, avec ce récit. On en apprend toujours plus sur qui est Jésus. Et ce dont on se rend compte ce matin, c'est à quel point les débuts de Jésus, il était présenté comme une sorte de bête de foire. Les gens accouraient de partout pour être guéris par lui. Et contrairement à la supposée renommée de M. Nyang, eh bien, la renommée de Jésus, elle était bien réelle. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre de guérisons à la lecture. Il y en a plein. Il y en a au moins trois qui sont caractéristiques. Ça commence dans une synagogue avec la guérison d'un démoniaque. Ça continue avec la guérison de la belle-mère de Pierre, qui est alitée parce qu'elle a de la fièvre. Et ça se termine avec la guérison d'un lépreux qui vient se jeter aux genoux de Jésus. Et entre-temps, il y en a plein, parce qu'il nous est dit que le soir, après le coucher du soleil, la ville entière était rassemblée devant les portes. Pourquoi le soir ? Parce que c'était le jour du sabbat et les juifs, pieux, ne devaient pas guérir un jour de sabbat. Donc ils attendaient que la nuit se couche pour pouvoir venir voir Jésus. Sur l'ensemble de ces guérisons que pratique Jésus, il y a deux choses qui m'ont particulièrement frappé et ça sera le corps de la méditation de ce matin. On en apprend effectivement un peu plus sur qui est Jésus. On se rend compte de la compassion extraordinaire qu'il a pour l'humanité, pour les hommes, pour les femmes. Et on se rend compte aussi de quelque chose qui nous sera utile, c'est sa gestion un peu particulière des priorités. On va se rendre compte qu'il ne gère pas exactement comme nous. On va commencer avec la compassion de Jésus pour l'humanité. Jésus, il s'intéresse à la personne humaine dans toute sa globalité. Là, je vous les ai mis, là, un à un. Il s'intéresse à la santé physique, à la santé mentale. Il s'intéresse au lien social des personnes. Et il s'intéresse aussi à la santé spirituelle des gens. Et dans tout son ministère, il ne cesse de permettre aux hommes de retrouver toutes leurs facultés sur tous ces plans-là. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'avais une question pour vous. Je voulais vous demander si vous appréciez votre médecin traitant. Ok, c'est pas très bon signe. D'accord. Est-ce que quand vous entrez chez votre médecin traitant, est-ce que vous avez l'impression qu'il en veut juste à vos 25 euros le plus rapidement possible? Ou est-ce qu'au contraire, il est bien à l'écoute? Et est-ce que quand vous arrivez, la salle d'attente est déborde de gens parce qu'il est tellement bon qu'il prend vraiment du temps avec chacun? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'usine? Ok. Alors Jésus me fait penser ici à un bon médecin généraliste. D'abord parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Aucune maladie. Vous avez vu qu'il s'attaque aussi bien aux problèmes physiques que mentaux. Bon médecin généraliste, il touche à tout. Et je dirais que l'épisode le plus marquant, c'est sans doute celle de la guérison du lépreux. Moi, j'ai été marqué par les paroles. Le lépreux demande à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus le touche et lui répond, « Je le veux, sois pur. » Et immédiatement, le lépreux est guéri. Immédiatement. Autorité de Jésus sur la maladie, totale, immédiate. Il suffit que Jésus veuille quelque chose. Je le veux. Lorsque Jésus veut quelque chose, ça se produit. Et pour les démons, c'est pareil. Une seule parole. Autorité de Jésus parfaite. Et dans tous ces cas de guérison, c'est bien plus que le physique ou le mental. C'est aussi le lien social des personnes qui est préservé ou qui est ramené à la vie. Vous savez que la lèpre, c'est une maladie de peau hyper contagieuse. Et donc, quand on avait la lèpre, on était exclu du peuple. On était exclu de sa famille et on vivait en quarantaine. Et donc, les paroles de Jésus sont extrêmement fortes. Une fois que le lépreux guérit, il lui dit, « Va te montrer au prêtre. » Pourquoi ? Pourquoi la loi de Moïse exigeait qu'on aille se montrer au prêtre ? Et bien parce que le prêtre pouvait renvoyer officiellement le lépreux guéri dans sa communauté. Et le prêtre avait comme ça le pouvoir de réintroduire officiellement à la vie, entre guillemets, à la vie normale, le lépreux. Donc vous voyez à quel point Jésus s'intéresse aussi au lien social des personnes. On ne peut pas vivre sans les autres. Réintégration dans la société. Compassion totale de Jésus. Et alors j'ai aussi été interpellé à titre personnel par les paroles du lépreux. Je me suis senti repris d'une certaine façon parce que je sais que Jésus m'aime, je sais qu'il a compassion de moi, je sais qu'il veut me libérer de tous mes fardeaux et je sais qu'il veut continuer à purifier ma vie, Jésus, mais je me suis demandé, est-ce que moi je le veux? Est-ce que moi je le veux véritablement? Est-ce que je veux être pur tout le temps? Quand je reviens à mes anciens travers, je suis sûr que ça vous arrive aussi, je me demande toujours, mais est-ce que je veux définitivement être purifié? Est-ce que je me tourne vers Jésus pour demander exactement comme au lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur? Jésus, il veut effectivement nous libérer des liens qui nous emprisonnent. Et parfois, on a tendance à se construire soi-même nos propres prisons. Et on se laisse enfermer dans ces prisons et on ne veut pas en sortir. On préfère y rester. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus qui lui répond, je le veux, sois pur. Mais nous, est-ce qu'on le veut? En tout cas, moi, j'ai été repris ici. En tant que bon médecin généraliste, Jésus, il a aussi une écoute prodigieuse des autres. Lorsqu'il va chez Simon-Pierre, sa belle-mère est malade. Et regardez ce qui se passe. aussitôt, on lui parla d'elle. Verset 30. Aussitôt, on lui parla d'elle. Les disciples, ils ont compris quelque chose d'hyper important, c'est qu'il n'y a rien qui est trop petit ou trop grand pour Jésus. Et ça, c'est véritablement un encouragement pour nous à dire à Jésus tous nos soucis, toutes nos peines, tous nos fardeaux. Sa compassion, elle est tellement grande qu'il s'intéresse même aux détails de notre vie. Ici, une simple fièvre. Bon, vous me direz, à l'époque, on pouvait mourir de la fièvre. En tout cas, on peut avoir la même confiance que les disciples qui n'ont pas hésité une seule seconde à s'adresser à Jésus. Et donc, on est invité à intercéder les uns pour les autres. On peut, nous aussi, porter un tel ou une telle dans la prière. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que, en tant qu'Église, vous réfléchissiez à cet aspect de la prière communautaire les uns pour les autres. Et il y a une chaîne de prière qui va bientôt naître dans les quelques semaines à venir. Je crois que Marie-Jeanne viendra vous présenter cette chaîne de prière dans les semaines à venir. On est invité à intercéder les uns pour les autres. Aussitôt, on lui parla d'elle. Et puis, les bons médecins généralistes, ils sont pas avares en explications. Parce que parfois, c'est dur quand on nous prescrit quelque chose, mais qu'on ne nous dit pas pourquoi on nous le prescrit. Les bons médecins, ils expliquent, ils disent. Et c'est pareil ici avec Jésus. Cette série de guérisons, elle commence par un temps d'enseignement dans la synagogue de Capernaum. Je vous relis le verset 22. On était frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Alors on sait qu'il enseigne, on connaît pas le contenu de son enseignement, mais en fait depuis la semaine dernière on le connaît, son enseignement. Son enseignement, il se résume au verset 15 dont tu as parlé, Laurence, tout à l'heure. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et là encore, ce qui ressort de l'enseignement de Jésus, c'est encore une fois sa compassion hors du commun. Il dit aux hommes et aux femmes comment éviter le jugement éternel. Il s'intéresse au bien-être éternel des personnes, au bien-être spirituel éternel des personnes. Il nous dit comment on peut être réconcilié avec Dieu. Il nous dit comment retrouver la paix avec Dieu. Mais ça pourrait se borner à des paroles dans la bouche de Jésus, mais on le sait qu'avec Jésus, ça ne s'est pas borné à des paroles. Pour nous réconcilier avec Dieu, son Père, il a consenti à mourir sur une croix pour nous sauver. Il est mort à notre place pour que nous puissions être pardonnés. Il a pris notre sanction sur lui. Donc, vous voyez, on peut se demander, mais il n'y a pas de compassion plus grande que celle de Jésus. Il s'intéresse à notre personne entière et il va jusqu'à payer de sa personne dans son acte de compassion. Lui, Jésus, l'innocent, donnant sa vie pour nous, les coupables. Voilà pour la compassion hors du commun de Jésus, qui s'intéresse au physique, au mental, au lien social, au bien-être éternel. Et je voulais te demander, est-ce que tu savais que Jésus t'aimait à ce point-là? Jésus n'a pas supporté l'idée de passer l'éternité loin de toi, et donc, il a accepté de mourir pour toi. Tu as tellement de prix à ses yeux. Voilà pour cette compassion énorme de Jésus. Maintenant, on va passer quelques instants sur la gestion des priorités de Jésus. Je vous le disais tout à l'heure, Jésus, il sait discerner ce qui est important dans la vie, ce qui n'est pas toujours notre cas. On lui amène tous les malades et tous les possédés pour qu'il les guérisse. Et que fait Jésus? Eh bien, il s'isole et il prie. Verset 35. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te recherchent ». Vous vous imaginez, vous, dans cette même situation, avec deux choix possibles? La popularité, parce que tout le monde est après vous. Ou alors, la communion, l'intimité avec Dieu. Vous auriez choisi quoi à la place de Jésus? En tout cas, Jésus, lui, il a choisi la communion avec son Père. Jésus, il sait que il est important de rester connecté avec son Père. C'est lui qui renouvelle ses forces. C'est lui qui l'encourage. C'est lui qui lui dit ce qu'il faut faire. Il y a de quoi être impressionné par cette capacité qu'a Jésus à faire le bon choix. Et ça aussi, ça m'a questionné, notamment par rapport à ma propre vie de prière. Parce que c'est facile de prier en mode pompier quand on a un gros problème. On prie facilement là quand on a un gros problème. Mais après, dans notre quotidien, quel type d'intimité on mène avec Dieu notre Père? C'est beaucoup plus difficile de s'appuyer sur Dieu à chaque instant de notre vie, comme le fait Jésus ici, à chaque décision que l'on prend. Jésus, il nous donne cet exemple ici de celui qui ne compte pas sur ses propres forces, mais qui vient s'appuyer sur Dieu. Il nous donne cet exemple afin que nous sachions ce qui est bon pour nous aussi. Il est bon de remettre notre vie entière entre les mains de Dieu. Première gestion de priorité pour Jésus. La deuxième. Donc il y a Pierre qui est à la recherche de Jésus avec les autres disciples. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche ». Verset 38. Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Là aussi, Jésus, il a deux choix possibles. Les deux choix possibles qu'il a, c'est de répondre aux besoins immédiats des personnes ou alors de se concentrer sur les besoins éternels des personnes. Et là aussi, il choisit la voie difficile. Il choisit la vie du prédicateur, la vie difficile du prédicateur itinérant. Vie difficile parce qu'il va être amené à dire des choses difficiles aux gens, notamment repentez-vous et croyez. Vous imaginez, là, il y a des malades et il y a des possédés qui affluent de partout. Il y a sa renommée qui ne cesse de croître. Et Jésus estime que leur bien-être terrestre, immédiat, est moins important que le fait d'aller dans d'autres villages pour annoncer la parole. Parce que c'est vrai que les guérisons et les exorcismes que Jésus pratique, ça va apporter un bien-être terrestre, mais ce bien-être terrestre, de toute façon, il aura une fin avec la mort des personnes. Mais le bien-être éternel n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix quand quelqu'un est sauvé du jugement à venir. Voilà pourquoi Jésus, il prend cette décision qui nous paraît bizarre. Il préfère annoncer le royaume de Dieu plutôt que de guérir la misère de notre monde. Mais c'est vrai que annoncer le royaume de Dieu porte des fruits au-delà de notre simple vie terrestre. Là, il y a une implication, je dirais, directe pour nous également, dans notre rapport aux autres. Dans notre rapport aux autres, c'est bien l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus qui doit être au centre de nos activités d'église. Nous ne pouvons pas soulager toute la misère du monde. Mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer les besoins des personnes qui sont sur notre route. Nous sommes invités à prendre soin d'eux, moralement, physiquement. Je ne sais pas si vous connaissez le slogan de l'armée du salut, mais il convient bien à ce que l'on observe de Jésus ici. Le slogan de l'armée du salut, c'est « soupe, savon et salut ». L'intégralité des besoins de la personne résumée dans ce slogan. Je crois que l'été prochain, il y a un voyage à Madagascar qui est en cours de préparation. Il y a 12 chanceux parmi vous qui vont pouvoir y aller. Et il me semble que ce voyage répond bien aussi aux critères de Jésus, parce qu'il y a une prise en compte des besoins spirituels et des besoins humains dans ce voyage en cours de préparation. Enfin, vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Un dernier point concernant la gestion des priorités de Jésus. Dans la synagogue de Capernaum, il y a un démoniaque qui prend la parole lorsqu'il voit Jésus. Et au verset 24, il dit « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Jésus qui répond, « Tais-toi. » Pourtant, c'est vrai, non ? Il est bien le Saint de Dieu. Il est bien le grand roi promis par Dieu depuis tout le temps. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui dit « Tais-toi » ? Et là aussi, il est question de priorité pour lui. Jésus ne laisse pas parler les démons, les esprits impurs, parce que cela perturberait sa mission. Les Juifs, à cette époque-là, ils attendaient un Messie, un grand roi glorieux qui allait prendre les armes et battre les Romains pour les mettre à la porte. Mais Jésus, il n'est pas ce type de roi. Ce n'est pas ça la royauté que Jésus est venu instaurer. Jésus, il n'est pas venu sauver les Juifs de l'emprise des Romains, mais il est venu sauver l'humanité entière de l'emprise du péché. Et donc, pour réussir sa mission, eh bien, il doit mourir sur la croix. Et donc, vous voyez qu'il a une gestion de priorité à faire, là, ou bien il choisit la gloire immédiate de révéler à tous qui il est, le grand Messie, le grand roi. Mais ce n'est pas ce qu'il choisit. Il choisit de faire taire ce démon pour se concentrer, pour ne pas être perturbé dans sa mission qui est d'arriver à la mort sur la croix. Donc Jésus, il est obligé de faire ce choix de gestion de priorité, de renoncer à la gloire immédiate pour se concentrer sur sa mission qui est douloureuse et dure. Donc il fait taire l'esprit impur, mais après, dans l'épisode du lépreux, il lui demande aussi, après la guérison, de ne rien dire et d'aller se montrer au prêtre. Mais en fait, le lépreux, il n'écoute pas. Il n'écoute pas Jésus et il va répandre la nouvelle. Et là, il se passe quelque chose de dur pour Jésus, c'est que Jésus ne peut plus entrer dans les villes. Il a une réputation qui a tellement grandi que les gens affluent de partout et ça met en péril sa mission parce qu'il ne peut plus annoncer le royaume de Dieu. Les gens sont en train de l'encercler de partout. Et sa mission se complique. Il est devenu une véritable bête de foire, Jésus, à ce moment-là. Je voudrais résumer et conclure. On vient de voir la supériorité de Jésus sur M. Nyang, me semble-t-il. On a constaté à quel point l'autorité de Jésus était totale. Aucune maladie ne lui résiste. Aucun démon ne lui résiste. Enseignement prodigieux, et le tout orienté vers les hommes et les femmes. Et c'est sa compassion qui transparaît partout. Jésus, il recherche le bonheur éternel des gens par la prédication. Il recherche leur bonheur physique par les guérisons. Il recherche leur bonheur moral par les exorcismes qu'il pratique. Il recherche leur bonheur social en les réintégrant dans le peuple. Et puis, on a constaté aussi à quel point Jésus gérait les priorités différemment de nous. Jésus, il fait le choix constant de dépendre de Dieu. Il privilégie l'annonce de la parole et il oriente tout son ministère vers sa mort pour nous sauver. Et donc, vous voyez que cette question de l'évangile de Marc, qui est Jésus ? Eh bien, on commence à avoir un sacré portrait ici de Jésus. En enseignant, en guérissant et en exorcisant, Jésus nous révèle qui il est. Il est Dieu, devenu homme, il est le roi de l'univers et il est venu donner sa vie à notre place sur la croix. Mais le problème qu'on commence à voir ce matin, c'est que les hommes et les femmes s'approchent de lui pour qu'il réponde à leurs besoins immédiats. J'ai un ami en région parisienne, il aime faire les courses, je ne sais pas si c'est votre cas, il aime faire les courses dans les grandes surfaces, surtout le vendredi soir. Pourquoi ? En fait, il recherche les animations commerciales. Et il fait quoi avec ces animations commerciales ? Eh bien, il prend un apéro gratos. En tout cas, il essaye. Ces animations commerciales, vous savez, vous pouvez tester un produit en vous tend des petits trucs à picorer. Et on vous encourage à acheter, mais vous n'êtes pas obligé. Et lui, il n'achète jamais. Ça ne l'intéresse pas. Il veut juste combler son besoin immédiat. Il se prend un apéro tous les vendredis soirs. Et ça, j'ai pensé que c'était un peu comme les gens du récit de ce matin. Ils veulent Jésus pour leur bien-être immédiat. Ils veulent Jésus pour être guéris de leur lèpre, pour être exorcisés. Et voilà pourquoi Jésus, il finit par fuir cette foule. Cette foule qui l'idolâtre pour ses pouvoirs, mais cette foule qui est versatile. Cette foule qui, bientôt, ne voudra pas de lui quand il faudra aller un peu plus loin dans sa relation avec lui. Et ça aussi, ça nous renvoie à nos propres motivations pour suivre Jésus. Pourquoi est-ce que vous voulez suivre Jésus ? Est-ce que vous venez à l'église juste pour les amis ? Pour la bonne ambiance ? Une église, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est ça aussi, hein, une église. C'est ça aussi, c'est des frères et sœurs qui nous épaulent, des frères et sœurs qui nous encouragent, parfois qui nous reprennent aussi. C'est ça une église. Mais est-ce qu'on ne devrait pas y venir d'abord parce que Jésus-Christ, le roi de la terre, nous y convie ? Alors il est certain qu'il y a des besoins immédiats qui sont comblés quand on vient à l'église. Mais il y a aussi des besoins spirituels qui mettent du temps, eux, à venir, à être comblés. Il y a des besoins spirituels qui sont comblés dans la douleur d'une maturation longue devenue à l'Église. La douleur d'une purification lente de notre comportement, de nos pensées, de nos motivations. Et c'est là qu'il nous faut persévérer dans notre vie d'Église et dans notre vie avec le Seigneur. C'est le Christ seul que nous devons chercher, et ce n'est pas avoir nos motivations comblées que l'on doit chercher. Parce que le seul qui est digne de notre adoration, ben, c'est Christ. Il est mort à notre place sur la croix, il nous a tout donné, il a une compassion énorme pour nous. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ben, je voudrais t'encourager à te tourner vers Jésus. Parce qu'on l'a vu ce matin, il t'aime. Il t'aime, il a donné sa vie pour toi et il veut t'accompagner sur son chemin, sur ton chemin, pardon. Il y aura des moments heureux si tu le suis, mais il y aura aussi des moments plus douloureux. Il te purifiera, souvent dans la douleur. Il te libérera aussi, souvent plus lentement que tu aurais voulu être libéré. Mais ta vie aura un sens. Et tu lui appartiendras pour toujours. Et il n'y a rien de plus beau que d'appartenir à Jésus-Christ. Amen.